Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Gloire au Seigneur.
Amen.
Dis avec moi, je suis né de Dieu.
Je suis né de Dieu.
J'appartiens à Dieu.
J'appartiens à Dieu.
Non seulement je suis un enfant,
j'ai grandi.
Je suis un fils.
Et en tant que fils,
je suis héritier parfait.
Je suis héritier parfait.
Et à cause de cela, le Père m'a intégré dans son armée. Et il m'a équipé.
Indispensable pour mener le bon combat de la foi.
Je suis en route. J'arrive.
Et sache.
Que je vais exercer.
Mon autorité en Christ.
Tu m'en as assez.
Tu m'as fatigué.
Tu m'as harcelé.
Tu m'as empêché de progresser.
Mais aujourd'hui, dans le nom de Christ Jésus, je renverse les barrières. Je marche sur les serpents et les scorpions.
J'exerce mon autorité.
Car je suis assis avec Christ.
Dans les lieux célestes.
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité.
Et j'exerce par ma bouche la victoire.
Et je marche dans la victoire.
Et je marche dans l'autorité.
Merci papa. Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage que nous avons eu pendant ce week-end. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Parce qu'il est bon, il est fidèle. Et ce matin, pour terminer donc ce temps de partage, nous allons voir l'autorité du croyant en tant que... Parce que nous ne finissons pas avec cela, ce serait incomplet. Nous avons vu que nous sommes nés, conçus, nés par le Saint-Esprit, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il n'y a aucune ambiguïté à cela. Ça, c'est notre identité. Enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est né doit grandir. Et nous avons vu que, comme Christ Jésus croissait et se fortifiait devant Dieu et devant les hommes, il croissait en sagesse en tout. Nous avons vu aussi que nous devons croître, nous devons grandir en Christ pour devenir des fils. Et en tant que fils, nous entendons la voix du Saint-Esprit qui nous dit, tu es mon fils bien-aimé. Nous avons dit que ce n'est pas le genre. Quand on parle de fils dans la Bible, on ne parle pas de garçon ou de femme. On parle simplement de la maturité. Fils. Et en tant que fils, Dieu dit que nous sommes dignes d'être écoutés par les autres. Pourquoi il dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il est digne d'être écouté. On n'écoute pas les enfants. C'est-à-dire qu'on satisfait les besoins des enfants parce qu'ils n'ont rien à vous donner. Mais les fils ont grandi, sont dans la maturité. Un père peut écouter son fils parce qu'il peut tirer de lui des leçons que lui n'a pas su exercer dans son enfant. Mais maintenant, en tant que fils, Dieu lui dit, mon fils, je veux que tu t'engages dans mon âme. Il y a un combat à mener. Et ce combat, je te le confie. Mais appuie-toi sur ma force toute puissante, appuie-toi sur moi-même. Car le combat ne t'appartient pas, c'est mon combat à moi. Mais je veux le faire à travers toi. je veux partager cette grâce de t'utiliser comme mon instrument afin que Satan ne dise pas que c'est moi qui l'ai conquis, mais la conquête, la défaite de Satan totale est par le Fils. Afin que la gloire me revienne à moi en tant que Père. Et c'est pourquoi il nous donne tout l'équipement qu'il faut, l'armement qu'il faut, les armes qu'il faut pour combattre ce bon combat. En tant que soldat, nous exerçons beaucoup la puissance. Nous avons été habitués à cela. En tant que charismatico-pentecôtisant, nous sommes habitués à cela. Power, puissance, puissance, puissance. Il y a un élément que nous n'avons pas beaucoup utilisé, c'est l'autorité. Et souvent, nous confondons puissance et autorité. La puissance n'est pas l'autorité. Il y a la puissance derrière toute autorité déléguée. Mais la puissance n'est pas l'autorité. Et la mauvaise utilisation d'un de ces éléments peut vous conduire dans une confusion totale. Nous sommes soldats, mais Dieu aussi veut qu'on exerce comme policier, comme agent de police. La puissance sied à l'armée, l'autorité sied à la police. Et les deux se complètent merveilleusement. Alors, ce matin, ouvrons notre Bible, s'il vous plaît. Si vous avez votre Bible, sinon vous allez écouter. Et après, vous allez lire à la maison. Luc 10, verset 17. Parce que le problème, c'est que nos traducteurs de nos Bibles, de l'hébreu grec en français, ont sauté certaines expressions claires du langage utilisé par Jésus en voulant le moderniser. En le faisant, on a déformé la pensée du Seigneur. Dans Luc 10, verset 17, la Bible nous dit ici, les 70, ceux qui tremblaient quand Jésus les envoyait, ceux qui étaient comme la plupart des chrétiens, remplis de peur et de crainte, quand le Seigneur les envoie pour aller témoigner, pour aller manifester le royaume de Dieu, ils partaient en tremblant. Voici leur retour maintenant. Les 70 revinrent avec joie. C'est important ça. Ils ne sont pas simplement revenus. Ils sont revenus avec joie. Ça c'est important. Si la joie de Dieu, qui est notre force, ne nous accompagne pas, la joie de Dieu est notre force. Pas la joie des événements, pas la joie circonstancielle, mais la joie de Dieu est notre force. C'est elle qui nous permet de maintenir notre foi. C'est ça qui nous permet de maintenir notre identité. Parce que, quelles que soient les circonstances, la joie du Seigneur est ma force. Il les révèle donc avec joie. Et voilà ce qu'ils ont dit. Quand ils partaient, ils n'ont rien dit à Jésus. Ils étaient muets comme des cannes. Mais quand ils sont allés, ils sont revenus, ils ont commencé à parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus ceci, vrai. Ils lui ont dit clairement, Seigneur, les démons m'aiment. Pour que les anges de Dieu m'aiment. Ils en avaient peur. Quand ils partaient, ils avaient peur des démons. Maintenant, au retour, ils ont dit, les démons m'aiment. De qui nous avons peur là? Nous sommes quoi? Soumis. Ah. Le mot soumission et le mot autorité vont ensemble. Le mot soumission ne va pas ensemble avec puissance. Hein? Jamais. Le mot autorité n'est jamais lié à la puissance. Est lié à le mot soumission n'est pas lié à la puissance, il est lié à l'autorité. Et si vous confondez ces deux-là, vous avez des problèmes. On ne se soumet pas à une puissance, on se soumet à une autorité. Si vous confondez les deux termes, vous avez des difficultés. Au moment où vous devez exercer l'autorité, si vous exercez la puissance, vous détruisez. Vous détruisez ce que vous voulez soumettre. Et les deux termes, L'un des termes se trouve dans Acte 1, 8, où il est dit la puissance, on parle là-bas du dynamis de Dieu. Du dynamis de Dieu. C'est ce que, de ce mot sort la dynamite. Est-ce que la dynamite soumet quelque chose? La dynamite fait quoi? Voilà. Ça, c'est le mot puissance. Puissance, dynamis, est lié à la force. Mais le mot autorité, c'est le mot exousia. Exousia, qui est lié à une délégation de pouvoir. De quelqu'un qui a une puissance, mais qui la transmet, qui délègue ce pouvoir-là à un autre pour l'exercer, pour manifester, pour soumettre donc les gens qui sont sous son règne. Ça, c'est très important. Alors, le chrétien est un soldat. En même temps, il est un agent de police. C'est pourquoi le plus petit agent de police qui sort au carrefour. Vous voyez tous ces gros camions qui sont en train de circuler en vitesse. Tous ces gros cars qui viennent. Quand il va au carrefour, il ne va pas avec la puissance. Non, s'il vous plaît. Il n'a pas de puissance. Il a une puissance derrière lui, mais il n'a pas de puissance lui-même, par lui-même. Il s'en va au carrefour et brusquement, ce policier lève la main et vous voyez tous ces gros cars qui commencent à freiner. Poum, poum. Vous voyez tous ces chauffeurs qui commencent à freiner et il arrête toute la circulation. Il a utilisé son autorité, pas sa puissance. Pas des cars sont plus puissants que lui. Simplement, sans frustration, sans anxiété. Il n'a pas dit maintenant, arrêtez vos cas. Il n'a pas chrétien, soyez cool là. Soyez cool. L'autorité s'exerce sans fermer les yeux, sans trembler. Au nom de Jésus. Au nom de. Non, non. Quand un policier vient chez vous, que vous avez 2 mètres ou 3 mètres, il dit au nom de la loi, je vous arrête, monsieur. Il sort ses menottes et vous tendez vos mains. Et vous tendez vos mains, même si vous avez 1m95. Parce que si vous le touchez, c'est maintenant que vous allez voir toute la puissance du cas. Alors, donc, frère, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ce soir? Alors, si vous savez que vous avez l'autorité, alors pourquoi vous tremblez? Mais si le policier n'avait pas confiance en l'autorité déléguée qu'il a reçue, est-ce qu'il va oser aller s'arrêter au milieu?
Non.
Est-ce que vous oserez aller vous arrêter au milieu de vous?
Non.
Si vous n'êtes pas policier, vous oserez aller vous arrêter au carrefour? Et que les gros camions qui viennent vous lever la main? Parce qu'il a reçu une délégation d'autorité, délégation de pouvoir. On lui a transmis. Et à cause de cela, il est habillé. C'est pourquoi hier, Dieu nous a habillés. Dieu nous a habillés de tous ces éléments. Alors, quand tout ce qui circule nous regarde, on sait que nous sommes revêtus d'une autorité. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous, mais nous avons l'autorité du nom de Jésus avec nous dans notre possession. C'est pourquoi on dit au nom du président de la République. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre national. Le grand chancelier n'a qu'un pouvoir délégué du président de la République. Au nom de la loi, nous vous arrêtons. C'est-à-dire que toute la puissance de l'État qui est derrière cet homme-là, ou cette jeune fille-là, je vous arrête. Un jour, je vous raconte une histoire, une jeune fille qui était agent de police. Dans la maison, son papa aimait beaucoup boire. Et puis, il circulait, enivré. La fille a dit à son papa, « Papa, un homme ne conduit pas en état d'ivresse. » Le papa dit, « Mais hé, quitte là, tu es ma fille. Hein. » Il dit, « Chez moi ici, c'est moi qui commande. » C'est moi qui commande dans cette maison, c'est moi le patron. Et puis il a bu, il était en état d'ivresse, il sort, il prend sa voiture, la jeune fille, sa propre fille, se met en habit de policier, ses habits, et s'en va au carrefour. Et le papa arrive, et sa voiture qui vient. Mais il est ivre, mais il reconnaît les policiers. Dès qu'il arrive, sa fille fait. Il lève la main. Toutes les voitures s'arrêtent. Il dit, à côté, garé, à côté. Et quand le papa sort, il dit, mais ma fille, monsieur, ici, c'est l'agent de police ayant l'autorité. Mais le papa dit, mais attention, hein. Il dit, monsieur, je vous arrête au nom de la loi. Votre permis. Il dit, mais tiens, tu me fais ça, François. Il dit, mais monsieur, c'est l'agent de police qui vous parle ici. Il a garé la voiture de son père, il a retiré le permis. Et il l'a mis dans un taxi pour aller à la maison. Quand il arrive à la maison à midi, son père dit, François, il dit, maintenant tu peux m'appeler Françoise. Mais au dehors, je ne suis pas Françoise, je suis l'agent de police avec les délégations de pouvoir. C'est cela, frère. Si nous ne croyons pas ça, on ne peut exercer un pouvoir lorsqu'on le fait par la foi. Lorsqu'on croit. Le policier va dans la rue par la foi. S'il n'a pas foi en gouvernement, que le gouvernement et la loi lui avaient donné l'autorité, il n'ira jamais au carrefour. Beaucoup de gens chrétiens n'exercent pas leur autorité parce qu'ils n'ont pas foi dans ce que le Seigneur leur a dit. Ils n'ont pas foi. Il n'exerce pas. Parce que la Bible dit ici, les démons même nous sont soumis en ton nom. L'expression est là. Ils nous sont soumis en ton nom. C'est ça qui fait l'autorité. Ils ne sont pas soumis à nous, mais en ton nom. C'est-à-dire que nous sommes aperçus qu'en allant, nous n'avons pas su, lorsque tu nous as dit d'aller chasser les démons en ton nom. Nous n'avions pas compris que tu nous avais donné une délégation de pouvoir. Maintenant, quand nous sommes allés et que nous avons rencontré les démoniaques, et que nous avons dit que nous chassons les démons au nom de Jésus, on a vu qu'automatiquement les démons se sont soumis. Alors là, il y a une révélation. Ils ont dit, mais tiens, mais nous avons l'autorité. Et c'est pourquoi ils sont revenus avec gloire. Ils ont découvert abruptement qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils ont découvert qu'ils sont les champions de Dieu. Ils ont découvert qu'ils ont l'autorité de Dieu. Et quand un chrétien découvre cela, il est affranchi. Il est totalement affranchi dans ses pensées. Il est libéré. Il est totalement libéré. Vous avez l'autorité. L'autorité s'exerce dans tous les domaines. L'autorité, frère, Jésus utilisait l'autorité du Père. Et ça, c'est important. Alors Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné l'autorité. C'est le mot autorité, exousia, qui est le mot utilisé. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité de marcher, de soumettre. L'autorité de soumettre toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas la puissance qui soumet la puissance, c'est l'autorité qui soumet l'autre puissance. Je vous ai donné l'autorité de marcher, de soumettre l'adversaire. Mais Jésus est le dernier Adam qui est venu nous révéler ce que Dieu avait dit au premier Adam. Qu'est-ce que Dieu avait dit au premier Adam? Dieu avait dit au premier Adam, quand il a créé, Genèse 1, 26, il a créé, il a dit qu'il a créé l'homme à son image et lui a donné la domination sur tout, les oiseaux et sur les reptiles de la terre. Écoutez-moi très bien. Donc, l'homme avait reçu l'autorité dans le jardin d'Éden. L'homme ne devait pas fonctionner dans le jardin d'Éden par la puissance, non, par l'autorité simplement. Dans le jardin d'Éden, Adam ne devait pas fonctionner par la puissance, seulement par l'autorité déléguée. l'autorité céleste avait été déléguée à l'homme de la terre pour dominer, c'est-à-dire régner, faire le règne de Dieu par l'autorité. Donc Dieu lui a dit, tous les reptiles de la terre, tous les reptiles qui rentrent sur la terre, je t'ai donné autorité. Et il l'a répété encore, c'est pourquoi dans le verset 26, maintenant il a mis ça au pluriel. Quand il a dit au verset 26, il s'adressait à Adam, le chef de la famille qui avait l'autorité. Dans le verset 27, il s'adresse à Adam et Ève maintenant. Là, il a utilisé les six verbes. Le verbe bénir, fécond, multiplier, reproduire, multiplier, soumettre, assujettir et dominer. Donc, non seulement individuellement, nous avons l'autorité, en tant que couple, nous avons l'autorité. 26 et 27 sont là pour vous montrer les deux. Donc, en tant que famille, en tant que couple, mari et femme, vous avez l'autorité. En tant qu'individu, vous avez l'autorité. Autorité sur les situations qui préparent dans votre maison. Autorité sur les esprits de dépression qui viennent sur votre épouse ou bien votre femme ou votre mari. Vous avez l'autorité. Vous devez dire à Satan que ce n'est pas normal qu'il vienne dans votre maison exercer son autorité sur votre mari pour le rendre dans la dépression. Quand j'ai compris ça, qu'est-ce que je faisais? Quand j'ai discuté avec ma femme, à l'époque, quand j'ai discuté avec ma femme, et qu'il y avait une colère qui montait dans la discussion, qu'est-ce que je faisais? Je sortais du salon, je partais tout juste dans le couloir. Et j'ai dit maintenant, esprit de colère, je te commande au nom de Christ Jésus de cesser. Cette maison m'appartient. C'est la maison des enfants de Dieu. C'est la maison des filles de Dieu. J'exerce mon autorité. Tu n'as pas le droit de tourmenter ma femme avec la colère. Et quand j'ai fini, je rentre, je m'assois au salon. Dès que j'arrive au salon, je la vois en train de sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas touché ma femme. J'ai ordonné à celui qui venait pour me harceler de partir. Comme un chien, il met sa queue entre ses pattes et puis... Femme, écoutez-moi. Si prochainement votre mari se lève, ne parlez pas, allez dans la cuisine. Enfermez-vous. Et dit esprit de colère, esprit de harcèlement qui tourmente mon mari. Je te commande de lui au nom de Dieu. De revenir deux minutes plus tard. Je te dis, alors chérie, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez exercer votre
autorité.
Vous voulez aller exercer votre autorité sur les démons au dehors. Comme le couple qui vient de le dire là, Bertrand, c'est ça, c'est dans la maison. L'église, c'est là. C'est l'église. L'église, la première église, c'est la maison. C'est important, frère. L'église, c'est la première maison. Votre maison, c'est la première église. Votre maison, c'est l'église de Dieu avant d'aller au dehors. Si nous comprenons ces vérités-là, alors, Dieu dit à Adam, je t'ai donné autorité sur les reptiles et tout. Exerce ton autorité. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra contre vous avec des paroles négatives. Dis-lui de se taire. Tu as l'autorité de se taire. De partir. Mais regardez, ça n'a même pas duré. Dans Genèse 3, le reptile est venu. Le reptile est venu dans le Genèse 3, le serpent. C'est pourquoi l'Éternel Adam nous rappelle encore que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Le premier Adam a refusé d'exercer son autorité, il nous a créé des problèmes. L'Éternel Adam est venu restaurer notre autorité et nous redonne la chose en disant, reprenez votre position. Si vous ne l'exercez pas, vous serez maltraité par le serpent ancien. Ce n'est pas là. Dieu a tout fait. Il n'a plus rien à faire. C'est vous qui devez exercer. Dieu est assis au ciel. Jésus est assis au ciel. Il intercède pour nous. Mais le Saint-Esprit qui est en nous ici veut agir. Mais à condition que nous collaborons avec lui par la foi.
Amen.
Ne levez pas les yeux pour demander à Jésus de venir. Il ne viendra pas. Il s'est assis à la droite de Dieu une fois pour
nous. Amen.
Il n'y a que le Saint-Esprit. Quand vous voyez Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui amène cette présence-là. Comme quand Jésus était sur la terre, il amenait la présence du Père. Le Père était là-haut, mais le Père était dans le Fils. Actuellement, le Père et le Fils sont dans le Saint-Esprit. Alors, si jamais vous voyez Jésus ici, ce n'est pas lui qui est descendu du ciel, c'est le Saint-Esprit qui l'a manifesté. Il n'est pas venu du ciel pour vous voir. Il est assis au ciel. Le Saint-Esprit est en vous. Il est capable de manifester la présence du Christ, du Père, de tout. Adam a refusé de son autorité, il nous a créé des problèmes. Dès que j'arrivais au ciel, je lui ai dit à Adam, viens ici. Je vais lui dire, mais écoute-moi. Tu nous as créé tout le problème sur la terre. Et heureusement, quand on arrive au ciel, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rancune. On oublie toutes ces choses-là. On ne peut plus accuser quelqu'un. L'accusateur est sur la terre, pas au ciel. Il a quitté le ciel il y a longtemps.
Amen.
Lui, il a renvoyé du ciel il y a longtemps. Celui qui accusait les frères, il n'a plus le droit. Autant de Job, il pouvait le faire. Mais maintenant, il n'a plus le droit parce qu'il y a la barrière de sang qu'il ne peut plus affranchir.
Amen.
Il ne peut plus avoir accès au ciel. Ne croyez pas que Satan a accès au ciel aujourd'hui, il n'a plus le droit. Jésus est monté avec son sang, il a tout purifié. Toute la souillure que Satan a faite, il a tout purifié. C'est fini. S'il vous accuse, il vous accuse où? Dans votre cœur. Votre cœur vous condamne. Et il accuse, il trouve votre cœur pour vous accuser, pas au ciel. Il ne peut pas aller dire à papa, bon Dieu, aujourd'hui, Mamadou a fait ça. Papa, bon Dieu, va lui monter le sang de Jésus. Il va dire, c'est lui là. Alléluia. Si vous êtes accusé, la Bible dit que votre cœur vous condamne. Pas Dieu. Dieu n'accuse pas. Satan, l'accusateur, il reste sur la terre, il ne vous accuse pas des pensées. Pas au ciel. C'est fini ça. Son pouvoir de vous accuser au ciel est terminé à longtemps. Ça, autant de Job. Les gens confondent. Job était un patriarche avant Abraham. Ils prennent les textes de Job et puis ils viennent l'appliquer aujourd'hui. Mais ils ont oublié que le sang de Christ Jésus a tout nettoyé. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui nous libère. La Bible dit, la révélation des paroles est claire, elle donne l'intelligence au saint. La révélation m'a franchi de l'ignorance de Satan. Mon peuple ne périt pas à cause de Satan. Mon peuple ne périt pas à cause des démons. Mon peuple ne périt pas à cause des dominations. Mon peuple périt par manque de connaissance, de révélation. Révélation de qui je suis, révélation de qui ils sont, révélation de qui Satan est. Si tu connais Dieu, tu te connais, tu connais Satan, tu es libre.
Amen.
Tu es libre. Tu es un homme libre. Tu connais Dieu, quelle est son identité, qui il est. Il est amour, il est saint. Tu le connais dans cela. Et tu sais qui tu es, ton identité à toi, qui tu es. Et tu connais qui est Satan. Et tu sais quelle est sa fin. Quand Satan te dit des péchés, rappelle-lui son futur.
Amen.
Dis-lui, si tu te dis, mais mon ami, tu viens de pécher, tu as fait, tu dis, oui, j'ai péché, mais je suis pardonné par le sang de Christ. Mais toi, l'enfer est pour toi. Quoi que tu fasses, tu iras là-bas. Que tu veux, oui ou non, tu iras dans l'enfer. Que tu veux, oui ou non, l'enfer est pour toi. Dis-lui ça, et tu vas voir, il met sa queue là, puis il s'en va. Rappelle-lui, c'est péché. Rappelle-lui ses vérités. N'aie pas peur. Ne te laisse pas culpabiliser. N'aie pas une complète infériorité. Il faut arrêter de laisser vos pensées être soumises. Dis-lui que hors ta main sur cette affaire-là. Hors ta main sur cette situation. Hors ta main. Jésus exerçait son autorité. Il savait qui il était. Il connaissait le Père. Il connaissait Satan. Les démons vous sont soumis. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, comment aujourd'hui cela a pu se faire? Cela a pu se faire simplement, nous allons étudier un peu les épîtres qui vont nous révéler notre position, notre autorité en Christ aujourd'hui. Éphésiens 1, c'est le premier passage. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Paul dit que Dieu a déployé la puissance, la vertu, la force de sa force en Christ. Dieu a déployé cette puissance en Christ. Le 1 apôtre, c'est ça, concernant la vertu, la puissance. Dieu a déployé la vertu de sa propre force en Christ en le ressuscitant des morts, excusez-moi, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je n'ai pas fini. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Quand on parle de lieux célestes, on ne parle pas du paradis, frère. Le problème, c'est ça. Les lieux célestes, c'est les lieux de la domination, du règne. Jésus est au ciel, dans les lieux célestes. Je ne comprends pas les lieux célestes. C'est l'ensemble de tout ce qui est spirituel qui prévaut, qui vous permet votre domination, votre autorité. Jésus est là-bas dans cette position. Quand on dit à sa droite, si vous avez déjà vu le ciel, il n'y a jamais trois trônes au ciel. Quand on dit Jésus à la droite de Dieu, on n'a pas dit un trône à la droite et le Saint-Esprit un trône à la gauche. Vous ne verrez jamais au ciel trois trônes, il y a un seul trône. Quand dans Apocalypse, je vous explique ça parce que souvent les gens ont des traditions qui bloquent leurs choses. Dans Apocalypse, quand on dit voici maintenant le lion qui a vaincu, on voit sur lui qui? Un agneau. Mais l'agneau sort d'où? Il sort du trône où Dieu était assis. Il n'est pas sorti du trône de droite, du trône de gauche. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Quand on parle de Trinité, ça veut pas dire qu'il y a trois trônes là. Il n'y a pas trois dieux. Quand on dit qu'il est assis à sa droite, ça veut dire que l'homme de sa droite, c'est l'homme de sa puissance. C'est pourquoi on dit au roi, le bras droit du roi. Le bras droit du roi, ça ne veut pas dire qu'il est assis à la droite du roi. Ça veut dire que c'est l'homme de confiance du roi. Le côté droit n'est pas géographique. Au ciel, il n'y a pas de géographie. Réfléchissez à ça. Ne transposez pas vos choses matérielles dans le ciel. Le temps, l'espace, la géographie, c'est pour la terre. Dieu est hors temps, hors géographie. Il est éternel.
Amen.
L'éternité se trouve en même temps ici, comme il se trouve au ciel. L'éternité, ce n'est pas une affaire qui va au... Non, il se trouve ici. C'est pourquoi Dieu dit « je suis ». Jésus dit « je suis ». Le « je suis », ça veut dire « c'est ici ». L'éternité et le temps sont mêlés. Mais quand l'éternité devient le temps, ça devient corps, matière. Pour entrer dans le temps, il faut que l'éternité devienne un corps. S'il ne devient pas un corps, ce n'est pas normal. Quand on quitte le temps pour être dans l'éternité, on perd sa chair, on rentre dans l'éternité avec notre corps céleste. Il faut bien comprendre les termes bibliques. Sinon, on est dans la confusion. Ce corps-là ne peut pas rentrer dans le ciel, jamais. C'est le corps glorifié qui rentre. C'est pourquoi Jésus, regardez le cas, il est ressuscité entre les morts. Il ressuscite entre les morts, il va vers les murs, il traverse les murs. Son corps physique, c'était le corps glorifié. Et quand on ne comprend pas, parce que le corps, ce corps-là est pour la poussière, c'est quoi ça va dans le tombeau. Alors, les lieux célestes, il dit, les lieux célestes, écoutez-les maintenant. Écoutez, vous allez voir, ce n'est pas un lieu géographique. Puisqu'on dit au-dessus. Au-dessus de quoi? On vous parle d'une position spirituelle. Au-dessus de quoi? De toute domination. La domination n'est pas un lieu géographique. C'est une position spirituelle. Au-dessus de toute domination, et ce n'est pas fini, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Vous voyez bien? Ce n'est pas des choses géographiques. On vous parle de position, on vous parle de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. On vous parle d'une position. On ne vous parle pas de géographie. C'est la même chose entre la loi de la gravité, la gravitation, et la loi de l'aérodynamique. Tant que les hommes n'ont pas découvert la loi de l'aérodynamique, tous les hommes étaient soumis à la loi de la gravité sans exception. Personne ne pouvait vaincre la loi de la gravitation par autre chose. Personne. Par cette loi-là, quand on jette un projectile qui est plus lourd que l'air, il revient verticalement, à moins qu'une autre force, la mer est venue obliquement, de façon oblique. Et cette loi-là bloquait toute la terre. Mais il y avait une seconde loi qui n'était pas visible aux yeux des gens. Que l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a fabriqué, il fallait que l'homme découvre. C'est pourquoi la vie chrétienne a plusieurs dimensions. Si vous n'avez pas découvert ça, vous allez fonctionner dans la première dimension des enfants de Dieu sans jamais vivre dans la victoire, dans la couche supérieure. Quand les frères Wright ont regardé attentivement les oiseaux, et quand ils ont regardé dans Ésaïe, où Dieu dit qu'ils viendront sur les ailes, quand ils ont vu ce passage-là, les ailes des oiseaux, et ils ont vu les oiseaux naturels, ils ont fait l'élément de comparaison, le naturel et le spirituel. Je vous ai dit que le naturel et le spirituel sont en parallèle toujours. Ils ont regardé, dit, les scientifiques en 1901 à Londres ont dit, il est impossible que quelque chose de lourd puisse tenir en l'air. Les frères Wright, deux jeunes fils, ont dit, non papa, mais regarde les oiseaux, regarde l'aigle royal simplement, il est plus lourd que l'air. Comment fait-il pour qu'il arrive à vaincre la loi de la gravitation? Ils utilisent une autre loi. Et si nous arrivons à découvrir cette loi-là, alors nous allons fabriquer un objet volant, imitant oiseau, naturel, avion. Son père a dit, hérésie! Les hérétiques d'aujourd'hui ont toujours été glorifiés demain comme les héros. Vous entendez ce qu'il dit? Tous les hérétiques scientifiques, tous les hérétiques, vous entendez ceux qui ont dit que la terre tourne, on a des hérésies. Après, on a trouvé que quoi? C'était un champion, mais il était déjà mort. Faites attention, les hérétiques d'aujourd'hui sont les héros de demain. Les hérétiques sont en avance sur leur génération. Non, écoutez-moi. Je ne parle pas d'hérésie spirituelle. En fait, quand je parle, sachez discerner. Je ne vous parle pas de choses religieuses. Là. Je ne parle pas. Même les. Quand Paul est venu par rapport à Pierre, il avait une connaissance par rapport à Pierre que Pierre ne sait pas. Et Pierre a dit. Paul même dit des choses que nous ne comprenons pas nous. C'est pourquoi Paul a dit qu'il faut des sectes. Ah! Alors, si vous voulez prendre les sectes dans la mode traditionnelle aujourd'hui, vous allez dire que Paul avait tort. Pourtant, Paul dit qu'il vaut mieux qu'il y ait des sectes parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire une secte? D'abord, si vous l'utilisez selon les termes modernes, vous allez faire une erreur. Si vous l'utilisez selon le terme biblique, vous allez voir qu'il y a une vérité. Faites attention. C'est-à-dire, vous pouvez prendre l'analyse moderne aujourd'hui, inclus dans votre ordinateur, ça ne marchera pas. C'est spirituel. Dieu parle des choses spirituelles. C'est pourquoi la plupart des mouvements spirituels qui s'élèvent aujourd'hui, ils les condamnent, ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas ces mouvements spirituels. Parce que quand Dieu agit, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas découvert des choses encore. Quand la physique traditionnelle dit que c'est la matière, ces choses-là, tout le monde dit oui. Quand les Newton ont dit que la loi de la gravité, bon, c'est tout le temps. Le fruit tombe verticalement sur le sol. Les gens ont dit oui, mais quand la physique quantique a commencé ces derniers temps, tout le monde s'est rendu compte que la physique classique et traditionnelle est dépassée. Dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Il y a plusieurs strates de chrétiens qui ont la révélation. Il y a les bébés en Christ qui tout le temps disent Seigneur, Dieu m'aime, Dieu pardon. Ils sont les chrétiens, pardon, bébé, amour. Mais les fils vont au-delà de ça. Et les jeunes gens vont au-delà de ça. Et les pères vont au-delà de ça. Paul était un père. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais salué Jésus. Il n'a jamais causé avec Jésus. Comment se peut-il qu'il ait connu Jésus plus que Pierre? Et il dit dans 2 Corinthiens 5, 7. Si vous l'avez connu dans la chair, nous ne le connaissons plus de telle manière. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Faites attention à votre mentalité. Faites attention à votre mentalité quand vous confrontez la parole de Dieu. Si vous laissez votre mentalité traditionnelle, Dieu ne va pas pénétrer là-dedans. Il faut s'ouvrir. Ne limitons pas Dieu. N'ayons pas une pensée unique sur Dieu. Dieu est diversifié. Il peut venir à vous tout de suite, comme ça, comme un ange. Il peut venir à vous comme un vieillard. Pourtant, c'est le même Dieu qui est là. Si vous mettez Dieu dans une pensée unique, vous allez vous créer des problèmes. Frère, c'est ça qui élargit le cœur des gens. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas tenu par une doctrine, vous êtes tenu par la révélation biblique. Vous comprenez? Ce sont les choses que je vous dis, et quand vous ne comprenez pas, vous allez rester. C'est pourquoi chaque mouvement c'est devenu un monument. Les mouvements sont devenus des monuments, pourquoi? Dès qu'on refuse la révélation continue, alors Dieu est obligé de chercher quelqu'un pour continuer. Dieu est un Dieu de parallèle. De même qu'il y a le progrès technique. Il y avait les médicaments qu'on utilisait en 1900, dans les années 1800. Mais la science a progressé pour découvrir. C'est pas on dit découverte. On n'a pas dit création, on dit découverte. C'est-à-dire la science a fait que découvrir des choses qui existaient. Mais la connaissance de l'époque ne permettait pas de connaître ces choses-là. C'est la même chose spirituelle. C'est la même chose. Les pères ont découvert certaines choses. Et maintenant, dans la fin des temps, Dieu a dit à Daniel, la connaissance va augmenter de telle manière que la connaissance permettra aux chrétiens d'agir à tel point que les gens vont dire qu'ils sont des hérétiques. Et c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Et les gens ne font que condamner les uns des autres. Quand le baptême du Saint-Esprit a commencé en 1906, on les a condamnés. Parce que ceux qui n'ont pas la révélation, on dit que ça vient du diable. Vous avez entendu? Quand le mouvement de la sainteté a commencé, ceux qui parlaient en langue seulement ont dit « ça vient du diable ». Quand le mouvement charismatique a commencé, les gens ont dit « ça vient du diable ». Maintenant, le mouvement de la gloire est en train d'être mis en place. Et les mêmes charismatico-pentecostiques sont en train de dire « c'est le diable ». De temps en temps, je préfère vous écorcher un peu, je ferme la parenthèse. Je préfère écorcher vos pensées un peu et je continue. Je ferme la parenthèse, je continue. Il faut faire attention de mettre Dieu dans une bouteille. Tout ce qui ne coule pas s'empoisonne. Une rivière qui ne coule pas, c'est une rivière qui s'évapore. Et la saleté vient là-dedans. Si vous ne laissez pas le flot du Saint-Esprit couler avec la parole de Dieu, à un moment donné, vous devenez un monument. Que les gens vont venir visiter. Et oui, il a été un grand homme de Dieu, mais il est devenu un monument. Vous n'êtes plus utile. Un monument n'est pas utile. Frère, ça c'est important que vous compreniez. Ne laissez pas les pensées, parce que la Bible, c'est la Bible. C'est pourquoi, quand un musulman découvre la Bible, en 5 ans, il est en avance sur tous les chrétiens. Parce qu'il n'a pas été... ni réformé, ni déformé. Il n'a pas été ni réformé, ni déformé. Parce qu'il découvre la réalité de Dieu, tel qu'il est. Les plus grands miracles dans nos campagnes d'évangélisation, les aveugles qui voient les choses, c'est qui? C'est les musulmans. En Inde, c'est les musulmans ou les bouddhistes. En Afrique, c'est les païens, les musulmans, qui voient les plus grands miracles. Quand vous dites à un chrétien que Dieu opère maintenant, il dit, est-ce que c'est selon ma doctrine? Il ne croit pas. Mais le musulman, quand il vient, il dit, mais Dieu guérit. Il dit, ah bon, bien sûr que Dieu guérit. Il dit, bon, je m'appelle à la maison. Il l'amène. Il va prendre sa mère, il l'amène. Dis-moi, Dieu fait marcher le paradis, dis oui. D'abord, vous êtes sûr. Il dit oui. Il s'en va, il prend sa maman, il l'amène. Il dit voilà, j'ai amené ma mère. Mais on dit à un chrétien qui a des douleurs de genoux, tends ton genou. Si je pouvais tendre, je n'ai pas ici. Tends ton genou, mon frère, par la foi. Il dit, pasteur, j'ai pas tendu mon genou. Pourquoi Jésus dit à l'homme qui était couché, lève-toi, prends ton lit. Je vous pose la question. Je vous pose la question. L'homme était paralysé. 38 ans. 38 ans, il est couché. Jésus lui dit, Jésus ne l'a pas touché. Il dit, mon ami, lève-toi, prends ton lit et marche. Il aurait pu répondre, mais insensé. Si je pouvais marcher, je ne serais pas là. Est-ce qu'il a répondu à Jésus comme ça? Ah, faites attention là. Ça, c'est important. L'autorité. Si on ne comprend pas l'autorité du croyant, alors, tout ce que nous avons reçu, c'est l'autorité qui nous permet de mettre ça en branle. C'est la dynamite qui nous permet de faire passer les choses. Donc, vous voyez, quand les enfants Wright ont découvert la loi de l'aérodynamique, ils ont inventé l'avion. Et aujourd'hui, les avions volent partout. Mais les deux lois sont là, la loi de la gravitation et la loi de l'aérodynamique. L'autre, simplement, est la dimension supérieure. Simplement. C'est pourquoi, pour vaincre la loi du péché et de la mort, il faut découvrir la loi de l'esprit de vie. Oui, c'est dans la Bible, là. La loi du péché de la mort, c'est la loi de la gravitation qui paralyse les gens, qui les empêche de voler. Mais quand tu découvres la loi de l'aérodynamique, c'est la loi de l'esprit de vie, tu commences à voler et tu redescends. Mais si le pilote qui vole, qui arrive à 15 000 mètres d'altitude, dit qu'il ne croit pas la loi de la gravitation, il arrête les moteurs. Pour vaincre la loi de la gravitation, il faut qu'il continue à garder les moteurs en marche, oui ou non? Alors, si vous dites que vous ne croyez pas à la loi de l'esprit de vie et que vous, ce n'est pas possible, vous allez être tout le temps dans la loi du péché et de la mort. Et c'est dans cette loi-là. Ces lois, on ne parle pas de la loi de Moïse, on parle des principes des lois spirituelles. Les lois et les principes spirituels sont différents de la loi de Moïse. Jésus-Christ nous a amené le salut, mais il nous dit de vivre selon les lois et les principes spirituels de la parole de Dieu. Je suis né, mais pour vivre, il faut que je mange. Oui. Maman a fait son travail en me mettant au monde. Mais ce n'est pas maman qui va me faire grandir. Il faut que je mange. Et comme je ne sais pas manger, maman me donne d'abord le sein. Maman me lave. Mais arrivé un âge, maman dit, mange. Si j'ai refusé de manger, je meurs. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a fait naître dans le royaume. Il nous a donné sa vie. Il dit maintenant, mange, mange et vis. Il dit non, tu mourras. Il n'y a pas de vie automatique là. Il y a des principes qu'on doit mettre en exergue. Il y a des lois qu'on doit mettre en exergue. La Bible s'est remplie de ça. Partout. C'est ça qui donne la victoire. Et l'une de ces principes là, c'est l'autorité. Comment exercer l'autorité? La loi de l'autorité. Comment l'exercer? Il faut l'apprendre. Quand il partait les 70, il ne la connaissait pas. Il ne savait pas qu'il y avait l'autorité. Il ne savait pas ce que ça veut dire. Ils allaient tremblant, la bouche fermée. Et quand ils ont obéi à Jésus, ils ont vu l'autorité, ils sont revenus avec joie, disant, les démons nous sont soumis. Nous avons découvert une loi spirituelle. Nous avons découvert qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la loi de l'autorité et de la soumission. Qui n'est pas appliqué ne vous sera pas utile. S'asseoir, raisonner sur toutes les théories de Dieu ne vous donnera pas la victoire. Il faut l'exercer. Il faut proclamer. Il faut agir. Et alors vous allez découvrir que ça fonctionne. Dieu nous a, il a élevé Jésus au-dessus. Ah, vous allez dire, mais c'est ce que Dieu a fait. Il a élevé Jésus. Alors, Jésus est la tête de l'Église, oui ou non? Nous ne sommes quoi? Le? Peut-on élever Mamadou sans son corps? Je suis ici avec quoi? Mamadou est composé de quoi? De sa tête et de son corps. Mamadou est sur l'estrade. Est-ce que c'est la tête qui est sur l'estrade? C'est tout Mamadou qui est sur l'estrade. Alors, quand Dieu a élevé Jésus, la tête, Regardez bien. La tête c'est le haut, les pieds c'est le bas. Terminons Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Même les pieds sont supérieurs à quoi? Aux dominations, aux autorités. Même si vous êtes les pieds de Jésus, même si vous êtes la plante des pieds, vous êtes supérieurs à quoi? Aux dominations, aux l'autorité, votre autorité. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Alors, cela veut dire que ma position en Christ, Dieu m'a mis en Christ, ça me suffit largement pour que j'exerce mon autorité. Si les pieds qui sont la partie inférieure de l'homme, la partie la plus basse de l'homme, si les dominations sont sous les pieds, alors si je suis un genou, si je suis un boyau, si je suis une dent, si je suis une lame, alors je suis supérieur toujours, puisque les pieds, la partie la plus inférieure de l'homme, est déjà au-dessus des yeux de Satan. Regardons maintenant chapitre 2. Nous allons voir nous-mêmes. Il a fait ça pour Jésus. Regardons, il nous dit maintenant, il a fait ça pour nous. Chapitre 2. Si nous ne prenons pas toute la Bible en entier, si nous faisons des exclusions dans la Bible, nous traitons Dieu de menteur. S'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous dites que ça, ce n'est pas vrai, dès que le moment où il y a un seul mensonge sur le caractère de Dieu, tout est faux. Tout est faux. Vous ne pouvez plus marcher avec Dieu. Vous ne pouvez plus marcher avec quelqu'un si vous mettez en doute son caractère. La Bible dit que deux marchent ensemble sans être au préalable d'accord. C'est pourquoi dans la loi des deux, dans la Bible est importante, la loi des deux. Deux marchent ensemble. Si deux chassent mille, un chasse mille, deux chassent combien?
Mille.
Et ensuite, si deux se mettent d'accord pour demander une chose à quelqu'un, elle sera faite. Donc la loi des deux dans la Bible est importante. C'est la loi de un, ça c'est Dieu. La loi des deux, ça c'est l'équipe. La loi des trois, ça c'est la diversité dans l'unité. La loi des quatre, la loi des cinq, tout est dans la Bible. Si vous n'avez pas examiné ces choses-là, vous êtes un chrétien qui vit comme cela, mais qui n'impacte personne. Regardons ce chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie. Il ne nous a pas donné seulement la vie. Nous avons été crucifiés et nous sommes ressuscités en même temps que Jésus est riche. Il nous a rendus à la vie avec Christ et ce n'est pas fini. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ça c'est entre parenthèses. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en alors, mon développement cyclique est complet. Il a élevé Jésus. Ah oui, il a élevé Jésus, vous savez, c'est Jésus. Mais Jésus, par rapport à toi, c'est quoi? Il est la tête, toi tu es le. Tu fais partie du corps. Peut-on élever la tête sans le corps? Non, mon ami. Si on élève la tête, on élève votre corps. Je ne peux pas venir inviter mon frère en invitant sa tête de venir chez moi. Vous voyez une tête dans la rue? Mais tout le monde va fuir. Une tête sans pied, ça n'existe pas. Une tête sans cou, ça n'existe pas. Dieu se rend faible pour son Église. Dieu est la tête. Mais il dit, sans toi, je ne peux rien faire. Et comme moi aussi, sans lui, je ne peux rien faire. L'interdépendance de Dieu et de son corps, c'est le mystère de Christ, l'Église. L'interdépendance. La tête est au ciel. Et il dit à son corps, exercez maintenant l'autorité que je vous ai donnée. Allez-y partout. Car, il dit dans Matthieu 28, verset 18, dans Matthieu 28, 18, il dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qui est au ciel? La tête. Qui est sur la terre? Le corps. La tête et le corps travaillent ensemble, en harmonie. Toute tout pouvoir ou autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lui, il est assis dans le ciel, nous, nous sommes sur la terre. Alors, il nous donne ses ordres. Il est allé maintenant partout dans le monde et exercé en mon nom, avec mon autorité, sorti dans les rues. La police est tout le temps là. Pourquoi vous appelez la police quand il y a des problèmes? Pourquoi vous appelez votre voisin, ce petit homme-là, il a 1m60, votre mari a 1m90. Pourquoi vous appelez ce petit homme-là de venir à votre secours? Réfléchissez un peu là. Soyez simplement logique et vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous offensez Dieu. Parce que ce petit homme qui est appelé policier, qui est dans le même immeuble que moi, il est un agent de police, il a l'autorité. Mon mari est un grand boxeur. Mais quand il y a des problèmes, je n'appelle pas mon mari. Je lui disais que boxer, c'est la puissance. J'appelle le policier qui a l'autorité. Alors, frère, et réfléchissez, vous allez comprendre. La vie chrétienne est si simple. Pourquoi on la complique? Tous les jours, vous avez confiance au policier. Vous l'appelez. Pour rien, police. Pour rien, police. Et vous êtes le policier de Dieu. Vous n'exercez pas votre autorité. C'est pas normal. Vous vous plaignez en disant la police n'a pas fait son travail. Le ciel se plaint, mais les policiers n'ont pas fait leur travail. C'est pourquoi il y a des désordres dans le monde. Vous êtes la police de Dieu. Si vous ne faites pas votre travail, il y aura des désordres dans votre quartier. Le quartier, c'est où? C'est la terre. Si vous refusez, si nous refusons d'exercer notre autorité, là où nous vivons là, rien, les choses vont être dans le désordre. Nous sommes la police, l'armée et la police en même temps. Nous le sommes. C'est pourquoi la police refuse. Elle applique la loi. La police n'est pas sentimentale. La police ne vient pas pour dire je vous aime ou je ne vous aime pas. Ce n'est pas leur problème. Qui vous aime, qui ne vous aime pas, ils doivent exercer leur autorité selon la loi. C'est, le problème, c'est que nous laissons la parole de Dieu et nous voulons exercer notre autorité selon nos sentiments. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai dit à une femme, je faisais un séminaire sur l'autorité. J'ai dit à une femme qui venait tout le temps, mon mari, il est difficile, bon, il est communiste, il est ceci. Il dit, c'est pas là le problème. Le problème, vous êtes maintenant l'autorité. Et Satan a aveuglé votre mari. Il a son intelligence. Donc, exercez, dites à Satan, d'ôter son emprise sur votre mari. Puisque vous avez le pouvoir, l'autorité sur Satan, dites-lui que la maison, puisque la Bible dit que la femme qui est convertie, la femme qui est sauvée, elle sanctifie son mari. Exercez votre autorité dans la famille. Pourquoi vous laissez abattre tout le temps? Pourquoi vous laissez vous pleurnicher? Appelez vos enfants. Dites à l'esprit de rébellion sur vos enfants-là. Ne n'attaquez pas les enfants. Aimez les enfants. Exercez votre autorité sur l'esprit de rébellion. Je lui ai dit cette nuit, si vous ne croyez pas, quand vous allez partir dans le même lit là, vous allez coucher. Est-ce qu'il ronfle? Il m'a dit oui, il ronfle. Alors quand il va ronfler, ça veut dire qu'il est en train de bien dormir. Pose ta petite main de femme. Tu ne crois pas en toi, ta petite main de femme douce là, pose-la simplement sur lui et dis à Satan, démon, je te commande que ton emprise soit brisée sur mon mari. Et tu verras ce qui va se passer. Tu crois ça? Elle dit, pasteur, je crois. Elle est partie. La nuit, quand le mari a ronflé, elle a posé sa main, comme je l'ai dit. Elle a murmuré simplement. Elle n'a pas crié. Elle avait crié. S'il vous plaît, elle avait crié. Satan connaît le nom de Jésus. Même tout, même quand il est murmuré. Quand elle a fait cela au nom de Christ Jésus, Satan, esprit, vous qui tourmentez, esprit impur, libéré. Dès qu'il a enlevé sa main, le monsieur s'est réveillé. Il a dit, je vais aller, il était déjà minuit, et nous étions sous la révolution, le couvre-feu. Il avait le courrier au Burkina. On ne peut pas sortir avant de minuit. Quand il s'est réveillé, il a dit, je vais voir le pasteur Karabéli. Sa femme dit, mais il est déjà minuit, il y a le couvre-feu. Mais sa femme dit, pourquoi? Il dit, je veux recevoir Christ maintenant. Sa femme lui a dit, ah, on ne peut pas aller. Parce qu'il y a... Mais il logeait face à face avec le président des assemblées du Burkina. Leur maison était face à face dans la même rue. Mais il dit, mais s'il peut avoir le pasteur Karabéli, amenez-moi sur le président de l'Assemblée de Dieu. Ils sont sortis, ils ont franchi la rue, ils sont rentrés sur le président de l'Assemblée de Dieu. Ils ont réveillé le président de l'Assemblée de Dieu. La même nuit, il s'est converti. Il est un chrétien fort comme ça aujourd'hui. La femme, depuis longtemps, elle jeûnait, elle priait, mais elle n'exerçait pas son autorité. Exercer votre autorité, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les dominations. Ça complète le message d'hier. Contre les dominations, les esprits qui paralysent vos enfants, qui paralysent votre situation. Ce patron arrogant, ce patron irascible, quand vous venez au travail, quand vous sortez de votre voiture, dès que vous êtes dans la cour de votre usine ou de votre entreprise, marchez comme des gens qui viennent prendre autorité. Marchez, entrez. Ce patron irascible, là, vous dites esprit, tu m'entends? Esprit de colère. Tu n'as qu'en tant que moi je suis ici, Jésus dit que je suis la lumière du monde. Et aucune forme de ténèbres ne me suivra. Exercez votre autorité sur l'esprit qui est sur votre patron. Mais quand vous allez dans le monde du travail, vous devenez automatiquement un simple humanitaire. Que vous êtes seulement chrétien à l'église. Est-ce que le sel perd sa saveur à la lune? Hein?
Non.
Alors pourquoi Jésus a donné du sel? Les présidents mettent du sel dans leur sauce et les pauvres mettent le même sel dans leur sauce. Le sel, on l'utilise en Amérique, on l'utilise en Afrique, on l'utilise en Europe. C'est l'élément le plus complet dont Jésus parle. Et il faut que vous êtes la lumière. Ça veut dire quoi? Toute lumière, là où elle va, les ténèbres reculent. Si vous savez quelle est votre identité, le sel et la lumière, là où vous entrez, j'entre comme la lumière. C'est ce que je fais chaque dimanche, chaque mercredi. En entrant dans les bâtiments d'église, il dit Mamadou Karabé, la lumière de Dieu arrive. Mamadou Karabé est la lumière de Dieu. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mamadou Karabé arrive en tant que lumière et il va assaisonner la vie de ces chrétiens qui sont là. Dès que je rentre, je vois les gens changer. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a installé dans l'obscurité. Vous allumez la lumière faite. C'est comme cela que vous devez faire en allant au service. En allant partout, frère. Je vous dis des choses simples. Si vous ne voulez pas, ok. En tout cas, moi, je suis bête, je crois ça. Je ne sais pas de me compliquer la vie, mon frère. Je crois ça. Et ça fonctionne. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans. Quand j'étais converti à Toulouse, j'étais un nouveau converti. Des gens qui cherchaient le baptême du Saint-Esprit 15 ans. Parce que les appels, ils viennent devant, ils pleurent, ils crient. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit depuis 15 ans. Qui est un don. Comment quelqu'un peut ne pas recevoir un don depuis 15 ans? Ça, c'était étrange pour moi. Étrange. Un don. S'il vous plaît, regardez. Un don. Le don a été donné à 15 ans. Il y a 2000 ans que le don du Saint-Esprit a été fait. Et vous mettez 15 ans pour le recevoir. Je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas les chrétiens. Je ne comprends pas. À un moment donné, j'étais tellement découragé que je voulais retourner dans l'islam. Je voulais retourner dans l'islam. Je dis, mais ces chrétiens, ça ne fonctionne pas chez eux. Qu'est-ce que c'est? Ils ont la vérité. Ils ont tout et ils marchent comme des gens ignorants. Mais j'étais choqué. Le pasteur dit, venez recevoir le Saint-Esprit. On dit, venez recevoir. On appelle de venir demander. Venez recevoir, ça veut dire quoi? Mon frère, viens recevoir ce don. Tu viens, tu tends les mains, tu prends. Et il vient là, le Seigneur. On n'a pas dit, venez pleurer. Il n'a pas dit, venez pleurer. Venez laissez-moi. il venait pleurer, il dit venez recevoir. C'est gratuit. À chaque Noël, vos enfants vous démontrent la foi. Vos enfants attendent le matin, ils savent qu'il y a des dons pour eux. Ils se réveillent tôt le matin et les enfants viennent prendre possession de leur cadeau, des petits jouets. Les enfants ont la foi. Et vous avez un Dieu si bon. Et quand il vous dit, tenez des dons, dites non, est-ce que je suis trop sanctifié, je suis bien sanctifié, est-ce que tous mes péchés sont pardonnés, et en ce Dieu se trouvait quelqu'un d'autre dans les dons, dis bon, va te sanctifier, on verra. Quand tu auras fini, tu vas revenir. Va te sanctifier, quand tu vas finir, tu vas revenir prendre. En ce moment, j'ai quelqu'un d'autre qui est simple, je vais lui donner. Frère, exerçons notre autorité. Et regardons, on va... Oui, il me reste toujours 15 minutes, je vais terminer. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre a commencé à comprendre les choses. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Écoutez, Pierre avait une certitude. Ce jour-là, il n'avait ni argent ni or. C'est clair, ça c'est le négatif. Le positif, car les deux font la lumière. Il n'y a pas de lumière sans négatif et positif. Dans votre vie, il faut tout le temps qu'il y ait le négatif et le positif. C'est pourquoi nous avons commencé le premier jour dans 1 Jean 5. Il est dit, nous sommes de Dieu et le monde est sous la puissance et l'autorité de qui? Du malin. Les deux. C'est ça qui donne la lumière. Pierre dit ici, je n'ai ni argent ni or, ce qui est sûr. Mais j'ai le nom. Il n'a pas dit j'ai la puissance. Le nom représente l'autorité. J'ai l'autorité. Le nom, c'est ça. On agit, l'autorité, c'est toujours agir au nom de quelqu'un. Donc l'autorité et le nom vont ensemble. J'ai l'autorité dans le nom de quelqu'un. Il dit, lève-toi dans ce nom-là, par cette autorité qui m'a été déléguée, je te demande de lever. Il n'a pas utilisé la puissance. Il a utilisé l'autorité du nom de Christ Jésus. Il a utilisé l'autorité du nom de Christ Jésus. Sur qui? Sur la paralysie en même temps. Pas sur Pierre, pas sur le paralytique, sur la paralysie. Quand il a dit au nom, puisqu'il a dit que au nom de Christ Jésus, tout, quand Jésus a été élevé, il est élevé au-dessus de tout nom. Tout nom. Ça veut dire que la paralysie est un quoi? Un nom. Le nom Jésus est supérieur au nom paralysie. Le nom Jésus est supérieur au nom cécité. Le nom Jésus est supérieur au nom infirmité. Les gens ne comprennent pas ça. Dans une assemblée, il y a le gouvernement tout entier, il y a le premier ministre, il y a tout le monde qui est là. Et brusquement, le huissier rentre. Il dit, Monsieur le Président de la République, tous les autres noms sont soumis en ce nom. Ça veut dire quoi? Le premier ministre, que les gens sont levés pour accueillir, brusquement fait quoi? Se tient debout. Pourquoi? Un autre nom supérieur à son nom est arrivé. Et il se soumet à ce nom-là. Le nom de Jésus est de tous les noms. Le nom de Satan, le nom des démons, quand vous l'utilisez, vous n'êtes pas conscient de ça. Si le président de la République rentre et qu'on dit, le protocole dit, le président de la République, si vous asseyez, vous êtes un impoli. Vous êtes un rebelle. Alors, quand le nom de Jésus est prononcé dans les cieux, sur la terre, il est dit, tout genou ploie. Le genou, c'est quoi? C'est la puissance. Dans les cieux, les anges ploient. Sur la terre, les hommes doivent ployer. Et en enfer, les hommes doivent ployer. Mais les chrétiens ne croient pas ça. C'est pourquoi l'utilisation abusive du nom de Jésus nous crée des problèmes. Nous l'avons tellement mis dans toutes les sens qu'on ne voit plus l'importance. Pour un lien au nom de Jésus. Pour un lien au nom de Jésus. Pour un lien au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. On n'a pas de déterminer nos prières au nom de Jésus. On doit faire nos prières au nom de Jésus. C'est différent de déterminer nos prières au nom de Jésus. On n'a pas dit de répéter à la fin de chaque prière, et vous avez fini et au nom de Jésus. Amen. Non, on n'a pas dit ça. On dit d'utiliser l'autorité qui est dans le nom de Jésus. On n'a pas dit de prononcer au nom de Jésus. Mais à force de dire ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, devant les problèmes, quand vous dites au nom de Jésus, vous ne croyez pas. Les démons croient, mais vous ne croyez pas.
C'est vrai.
Les démons s'arrêtent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il va donner comme ordre? Puis vous tournez les deux ou pas. Ils disent, mais les démons sont des ignorants, vos gars. Ce sont des ignorants. N'abusez pas de l'expression au nom de Jésus. Ça, c'est une expression. Au nom de Jésus, ce n'est pas l'autorité. C'est-à-dire que si vous le faites, c'est-à-dire que vous appuyez, quand vous dites au nom de Jésus, vous appuyez sur toute la puissance du ciel. C'est ça que ça veut dire. Vous venez au nom, vous venez en lieu et place du ciel. Vous agissez en lieu et place de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Vous ne venez pas dans une formule. Ce n'est pas une formule que vous êtes en train de dire. Non. C'est l'expression de votre foi qu'il y a dans le nom de Jésus. Puisque la Bible a déjà dit qu'au nom de Jésus, tout genou croit dans les cieux. Ça veut dire quand vous dites au nom de Jésus, les anges, quand vous dites au nom de Jésus, quand ils entendent le nom de Jésus, ils ploient genou. Les démons ploient genou. Et toi, si tu dis ça avec frivolité, artificialisme au nom de Jésus, rien ne se passe. Tu ne crois pas en ce nom. Tu n'as pas confiance dans ce nom-là. Ce nom n'opère pas dans celui qui utilise ce nom avec frivolité. Il n'y a même pas de respect, il n'y a pas d'honneur en ce nom-là. Alors c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça devient une tradition de répéter au nom de Jésus nos prières, on termine nos prières et on mange au nom de Jésus, on se bagarre au nom de Jésus. Ça ne fonctionne pas. Parce que nous ne voyons pas l'importance là. C'est cette subtilité que Satan a mis dans la bouche des chrétiens d'utiliser cette phrase au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il rit à corps déployé. Ils disent quelque chose auquel ils ne croient pas. C'est devenu mécanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On les demande, mais comment ça? Est-ce que vous connaissez ce nom-là? Mais non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ça ne fonctionne plus. Arrêtez de répéter mécaniquement au nom de Jésus. Et soyez conscients d'abord, le Jésus que vous appelez là, c'est le roi des rois. On n'appelle pas un roi des rois au hasard. On n'appelle pas un roi des rois comme un petit copain du quartier. On l'appelle, quand on l'appelle, on respecte, on honore, on a foi dans son nom. Et on exerce notre autorité dans ce nom-là. Et le monde qui est autour de nous sait que ce nom est puissant. Donc c'est pour que la vie c'est là. Regardez maintenant la découverte. Les gens ont posé la question. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait le miracle? Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Vous entendez? Pierre répond. Pierre répond à acte 3, verset 16. Quand les gens ont posé la question, comment se fait-il que cet homme-là soit guéri? Les gens, Pierre dit, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance. C'est par la foi en son nom. Que son nom, vous entendez? La foi en son nom, que son nom, vous entendez? Son nom a fait quoi? A raffermi celui que vous voyez et connaissez. Premièrement, la foi en son nom. Ça, c'est moi. j'ai la foi en son nom. Quand j'ai la foi en son nom, quand j'utilise ce nom maintenant, la foi que j'ai dans ce nom-là, ce nom manifeste la puissance. Vous voyez les écrits? D'abord, il faut que j'ai la foi en son nom, c'est-à-dire foi en son autorité qu'il m'a accordée. Et ce n'est pas fini. On les a accusés, on les a mis devant le Sanhédrin, chapitre 4. Le Sanhédrin va savoir. Le Sanhédrin est étonné. Le Sanhédrin sait que quelque chose s'est passé. Et le Sanhédrin ne comprend pas. On les convoque et on les menace. Et maintenant, voilà la question qu'on leur pose. Les chefs du peuple furent placés au milieu, verset 7. 4, 7. Au milieu de Pierre et Jean, ils leur demandèrent, par quelle autorité ou au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, même le monde sait que Pierre a utilisé une autorité. Et on lui pose la question, par quelle autorité ou au nom de qui? Donc, autorité est égale. Autorité est égale à nom. C'est pourquoi le chèque que vous signez, si vous signez 1 million d'euros, vous allez à la banque, quand le caissier tape, votre nom n'est pas fort, il va remettre le chèque en disant, monsieur, c'est sans provision. C'est-à-dire que votre chèque n'a pas d'autorité. Parce que celui qui vous a donné le chèque n'a aucune puissance financière. Donc vous ne pouvez pas exercer l'autorité de ce chèque-là. On vous la retourne, on dit répartez. Répartez. Mais pourtant, non. Derrière chaque autorité, il y a une puissance. Qui vous a envoyé? C'est ça. Quand Moïse est parti pour voir Pharaon, il est parti, il a parlé. Mais Pharaon allait, il dit, mais qui est l'Éternel pour que je croie en lui? Les démons ont le droit de vous poser des questions. Les situations difficiles de votre famille, on le doit de vous poser cette question, on le doit de vous résister. Si vous ne croyez pas en l'autorité de Jésus-Christ, vos situations doivent vous résister, vous dire non, on ne changera pas. Ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une formule magique. C'est la foi en son nom que le nom agit. Si tu n'as pas foi en son nom, tu n'as qu'à vous le répéter, Jésus, 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 rien ne s'est passé là. Ça, c'est un simple mantra. Et ça ne marche pas. La foi en son nom, que son nom agit. C'est pourquoi si quelqu'un me donne un chèque, j'ai la foi en son nom, c'est-à-dire en sa signature. Je m'en vais à la banque parce que j'ai foi en son nom. Je m'en vais devant le caissier car je sais que cet homme-là a 15 milliards d'euros. En me disant d'aller toucher 1 million d'euros, alors je m'en vais avec assurance à la banque. Et quand je présente le chèque, ça veut dire le chèque démontre la signature de ce monsieur avec son nom, démontre que cet homme-là a une puissance financière et que la banque ne peut pas refuser d'obéir à ce que j'ai présenté comme chèque. Et la banque me donne l'argent. C'est ça l'autorité. Mais si je prends ton chèque, je regarde, je dis, est-ce que ce nom-là est porteur de 1 million d'euros, je poserai le chèque chez moi à la maison, je n'irai jamais à la banque. C'est ça que les chrétiens font. Dieu leur a donné un chèque blanc signé par le nom de Jésus-Christ. Il ne l'utilise pas. Il le pose à la maison. Il résonne. Chèque en blanc signé par le nom de Jésus-Christ. Allez-y. Non, il prend ses épaules à la maison, ils s'en vont. Ça ne marche pas. Le diable n'obéira pas. Le diable n'obéira pas. Le diable obéit à quelqu'un qui a la foi au nom de Jésus et qui l'exerce. Ce n'est pas les prières. N'allez pas prier inutilement. Parfois, la prière est une forme d'incrédulité parce que vous ne voulez pas obéir. Vous vous réfugiez dans la prière. On va prier. Prier pour faire quoi? Va agir. Jésus n'a pas dit aux 70 d'aller prier. Il dit, allez.
Amen.
Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans le monde entier. Marc 7. Allez dans le monde entier. Il n'a pas dit d'aller prier d'abord. Allez. Exercez votre autorité. Le policier ne prie pas avant d'aller dans la rue. Le policier a l'autorité partout. Partout. Qu'il dorme, qu'il ne dorme pas, il est policier. Il est conscient de ça. Il est conscient qu'il est un homme de la loi. Il est conscient de ça. Il n'abuse pas de sa, son autorité, mais il l'exerce avec eux. Ils ont dit, par quel nom? Vous voyez bien? Par quel nom? Et Pierre répond au verset 10, sachez-le tous, que tout le peuple le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, c'est par lui que cet homme se présente devant vous. C'est par le nom de Jésus-Christ. Alors il dit au verset 12 maintenant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et au verset, regardez bien, verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ah, de parler et d'enseigner au nom. On n'a pas dit de parler du nom de Jésus. Est-ce que vous entendez là? Vous entendez la différence? On n'a pas dit, on leur a interdit de parler du nom de Jésus. Non! Au nom de Jésus. C'est différent là. Satan ne vous empêchera pas de parler du nom de Jésus. Si vous n'avez pas foi, il ne vous empêchera pas. Vous pouvez le dire. Dites-le comme vous voulez. Rien ne se passera. Mais il leur a empêché de, il les a défendu de parler au nom et d'enseigner au nom de Jésus. C'est différent là. C'est français, non? Vous comprenez ça? Ok, si vous comprenez, on vous dit, on ne vous empêchera pas d'utiliser le nom de Jésus. On vous défendra d'utiliser, de parler en son nom, dans son autorité. Mais on va s'arrêter là, parce qu'il restait un morceau. L'autorité ne se manifeste pas si ce n'est que par la voie de l'excellence, de l'amour. Une autre fois, si on se revoit, je vais développer cela. Il n'y a pas d'autorité sans amour.
Amen.
Vous ne pouvez pas utiliser l'autorité si vous n'utilisez pas la voie par excellence qui est l'amour. L'amour et l'autorité vont de pair. Là où il y a l'amour, c'est facile d'exercer l'autorité. L'autorité et l'amour, c'est un couple merveilleux. On va prier pour terminer. Père, nous te remercions ce matin. Te bénissons ce matin pour ta fidélité. Merci pour ton peuple. Merci pour des excellents hommes, des femmes excellentes qui sont venus ici pendant tout ce week-end avec qui nous avons partagé la parole de Dieu. Je te remercie pour tous ces merveilleux couples qui sont ici ce matin. Merci pour ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens. Merci pour ta parole de vie, ta parole de grâce. Seigneur, parle profondément nos cœurs pour que nous puissions obéir et agir en ce nom de Jésus. Que notre foi dans ce nom-là soit de plus en plus affermie afin que nous puissions glorifier ton nom. Père, bénis ton peuple, que tous ceux qui vont repartir, qu'ils repartent avec tout cela dans leur cœur, qu'ils agissent avec foi dans leur cœur, qu'ils sachent que le nom de Christ leur appartient, que ce nom est merveilleux, et qu'ils peuvent agir en ce nom-là, qu'ils peuvent enseigner en ce nom-là, qu'ils peuvent travailler dans ce nom-là, qu'ils sachent qu'ils sont des légataires, les dépositaires légitimes et spirituels de ce nom-là. Et que ce nom leur appartient. Ils font de la famille de Jésus. Et ce nom leur appartient. Comme le nom du président de la République appartient à son fils. Nous sommes les enfants du roi des rois. Et ce nom nous appartient. Le nom de Jésus est notre héritage. Et nous allons le brandir partout où nous allons. Et que sa grâce et son amour soient sur vous. Que sa paix vous accompagne. Et que l'amour de Dieu continue à se développer dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.